Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e-16e siècle. Patrick Boucheron.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous voir ce matin parce que j'ai eu un peu de mal à venir pour tout dire. Et sans la diligence d'un chauffeur de taxi particulièrement entreprenant, j'aurais été beaucoup plus tard. Mais là, ça va. La semaine dernière, je vous ai compté fleurette, je crois. Je vous ai laissé les fleurs bleues, celle de Raymond Queneau, évidemment, Les fleurs bleues, ce roman en forme de fantaisie médiévaliste sur les passages secrets que l'art du mine, la poésie courtoise de langue allemande, ménage amoureusement entre notre aujourd'hui et le passé médiéval. Ménage en empruntant la porte des songes. Les mots font l'amour, affirmait Queneau. Entendez à la fois que l'amour ne se fait pas sans eux et qu'il y a entre eux des ébats et des étreintes. Je vais parler aujourd'hui de ce qu'aimer veut dire au Moyen-Âge en évoquant tous les mots de l'amour. Eros, philia et agapé, mais aussi amor, dilectio, et surtout caritas, qui, depuis le ciel des idées, prétend à tous leur imposer sa loi. Mais l'amour est enfant de Bohème qui n'a jamais, jamais connu de loi, sinon celle de l'équivoque. On croit dire l'amour, on croit le faire avec des mots choisis. On espère que le monde s'ordonnera tout entier au jeu subtil de ses agencements, de ses hiérarchies, de ses séparations. Mais ça fuit, mais on se trahit toujours. Et c'est autre chose qui se dit. Il n'y a pas de rapport sexuel, affirmait l'autre. Et bientôt naît le trouble. Écoutons ce qu'en disait au XIe siècle le grand poète andalou Ibn Hazm dans ce chef-d'œuvre absolu de la littérature amoureuse qu'est Le collier de la colombe. L'amour est traversé de mauvaises pensées, de soupçons sur chaque mot de l'autre, d'intentions qu'on leur donne et qu'ils n'ont pas. C'est la racine du reproche entre amants. On retrouve à lire ce texte subtil, tressant en 30 chapitres, poème d'amour, pensée de l'histoire et écriture de soi. On y retrouve donc bien des thèmes qui furent les nôtres la semaine dernière. L'amour est une maladie qui est fille de la nuit, comment on s'éprend en dormant, est le titre du 3e chapitre du Collier de la Colombe, et on le rêve, l'amour, avant de l'éprouver. Je cite, « L'amour a ses symptômes, la sagacité en suit les traces, et l'intelligence s'y dirige tout droit. Le premier, c'est la durée d'un regard. On aime donc au premier regard. Et si le poème d'Ibn Hazm est une histoire de l'œil, dans tous les sens que j'avais tenté de suggérer, de l'obvie à l'obscène, avec et sans Georges Bataille, c'est parce que, je cite, « il faut voir pour savoir ». Et l'on retrouve ici l'un des traits les plus vifs de la pensée arabe, pour Jean-Baptiste Brenet, « l'intellect n'existe que par l'image, le cogito averroïste » étant plus tard défini comme « je fantasme, donc je suis ». Je fantasme au sens philosophique, c'est-à-dire je crée fantasma, des images, des dames de l'art, de ma pensée. Entendez que je suis un être qui n'a pas d'être. Et voilà pourquoi cette philosophie s'offre et s'ouvre à l'humiliation du sujet par l'inconscient freudien du « ça pense en moi ». Chez Ibn Hazm, en tout cas, seuls les yeux font signe. Sache que l'œil supplée au message, qu'il fait saisir les intentions. Car si nous n'avions que le langage, nous ne nous comprendrions pas. La dissimulation du langage est un des traits de l'amour, écrit Ibn Hazm. On se dit des mots, et ces mots s'insinuent. Comment les mots s'insinuent est le titre du 8e chapitre. Mais comme ils dévient et manquent leur but, il faut avoir recours au guide suprême qu'est le regard. Début du chapitre 8, Je vous le lis. Après les insinuations du langage, quand on est déjà accepté et complice, viennent les indications du regard. Ils tiennent, dans le code de l'amour, un rôle admirable et réalisent d'étonnantes prouesses. On peut y rompre ou s'unir, y promettre ou s'y menacer, y saisir au collet ou s'y apaiser, ordonner ou interdire, y conclure des engagements, y alerter contre l'œil hostile, y éclater de rire et y pleurer de tendresse, poser des questions et y répondre, y défendre et y accorder. La paix et la guerre, l'hostilité et l'hospitalité, l'engagement et la trahison, l'obéissance et la sédition. J'ai cité dans la longueur, pour que vous puissiez y entendre en sourdine, outre la beauté, les échos d'une politique de la relation. Car en politique, également, tout est toujours à refaire. On s'est parlé, et ça nous a égarés. On s'est regardé, et on s'est retrouvé. Alors on s'écrit, et on se perd à nouveau. Chapitre 10. Ensuite, quand les amants se mêlent à se confondre, vient l'échange de lettres, source de désastre. La politique de l'amour, pour Ibn Hazm, est une réflexion sur la défection possible du messager et sur l'équivoque de la lettre qui contient, titre du chapitre 12, un secret replié. Un secret replié. Je chercherai donc aujourd'hui l'équivoque de ce secret replié dans les mots de l'amour au Moyen Âge. Pourquoi avoir commencé avec Ibn Hazm ? Né à Cordoue en 994, mort en 1064, fils du grand Al-Mansour, ancien vizir du palais du calife Omeyyade, devenu l'homme fort d'Al-Andalus, il était à la fois juriste, théologien, philosophe, historien, poète, auteur, dit-on, de 400 livres, qu'il avait eu la tristesse de voir en partie brûlés sur une place de Cordoue parce que les Omeyyades s'étaient effondrés. Ibn Hazm est le penseur global de ces lumières andalouses, dont Emmanuel Tixier-Duménil s'est faite l'historienne, montrant qu'elle se fondait politiquement sur une identité savante qui, n'ayant pour seule patrie qu'un savoir situé et un savoir pensé poétiquement, en faisait un héritage universalisable. On peut d'abord inscrire cet héritage dans une histoire littéraire. La poésie andalouse, et celle d'Ibn Hazm en particulier, se poursuit évidemment de l'autre côté des Pyrénées, une génération plus tard, avec la lyrique occitane des troubadours, dont beaucoup de ces troubadours avaient suivi les seigneurs aquitains dès la fin du XIe siècle dans leurs expéditions ibériques. Comme l'a relevé l'historienne Rachel Harrier, l'art d'aimer des troubadours, depuis Guillaume d'Aquitaine, exprime une tension entre élévation spirituelle et sensualité, ou entre amour platonique et amour réaliste, pour le dire avec René Nelly, une tension qui est déjà dans Ibn Hazm. Cet amour peut être dit platonique parce qu'il s'inspire en partie du Banquet de Platon, mais évidemment à travers des réinterprétations plus anciennes encore dans la pensée arabe, comme celle d'Ibn Daoud, dont Louis Massignon disait qu'il était la première systématisation de l'amour platonique, et celle-ci tirait non seulement une mystique, mais un code courtois, et tout cela depuis le hadith, « Celui qui aime reste chaste, s'éterre son amour et en meurt, celui-là meurt en martyr. » On est là dans la lignée de cette jurisprudence islamique littéraliste qui est apparue à Ispahan dès le IXe siècle, qu'on appelle le zahirisme, et c'est précisément le zahirisme qu'enseignait Ibn Hazm à Cordoue. Mais justement, L'héritage de sa poésie politique de l'amour peut aussi s'inscrire dans une histoire des pouvoirs. Je vous ai lu, et je suis la leçon, de la belle traduction que Gabriel Martinez Gros a donnée du Collier de la Colombe sous le titre « De l'amour et des amants », paru en 1992 dans la bibliothèque arabe des éditions Sinbad, alors dirigée par André Miquel, dont je salue ici la mémoire. Ibn Hazm était aussi un des personnages principaux du grand livre de Gabriel Martinez Gros, « L'idéologie omeyyade ». Parce que c'est bien cette émotion politique qui traverse le monologue d'un cœur amoureux du penseur de Cordoue. Il a vu, je l'ai dit, s'effondrer en lui le grand califat omeyyade qui brillait depuis 4 siècles sur l'islam et sur l'aventure des Arabes. Car son livre, émaillé d'anecdotes, est animé par la grande histoire, celle qu'évoque le long et poignant 24e chapitre intitulé « La séparation » et qui dit à la fois la perte de l'être aimé, ici une jeune esclave nommée Noum, si blanche, et la ruine de ses palais de Cordoue dans les années 30 de l'an 1000, ses loges vivantes d'inscriptions, ces alcôves ornées, empourprées comme un soleil levant qui comblait le regard et chassait le tourment, la ruine les avait prises tout entières, comme la gueule béante d'un fauve dont le vide rappelait au néant du monde. Car point de doute, quand il parle de l'amour, Ibn Hazm parle de l'islam, parle aussi de l'islam. Et ce n'est pas seulement que son poème amoureux est le fils de la guerre civile, c'est qu'il pense en même temps et dans les mêmes termes et avec les mêmes mots la division de l'islam et la dissidence amoureuse. Et voilà ce qu'on doit retenir. Il y a dans l'acte d'amour, dans le fait de choisir un seul contre tous les autres, dans le fait d'affirmer une irréductible singularité, une force de déliaison qui donne à chaque mot, chaque geste, chaque regard, un sens singulier et sans partage. Les amoureux ont leur folklore, incompréhensible, intraduisible. Il y a donc dans l'amour une puissance, une sédition, une guerre civile. Car, et je cite ici Gabriel Martinez Gros, « l'amant est un étranger au pays du partage, un barbare travesti dans la cité, hostile à ses lois, à ses usages. Et quelle force, sinon l'amour, serait en mesure de tisser dans la mémoire des liens qui uniraient les hommes après avoir su rompre ceux du quotidien ?» Entendez bien, il ne s'agit pas seulement d'une écriture nostalgique d'un pouvoir perdu, d'une rébellion qui ne se comprend pas sans la communauté qui l'a subie et qui, dans la mémoire, lui survit. Non, il s'agit de considérer l'amour comme la fitna, comme la dissidence, comme la guerre civile, c'est-à-dire comme aussi un lien de division, une stasis, si vous préférez qu'on parle grec. Soit l'essence même du politique, le lien de division. Mais nous ne disions pas autre chose la semaine dernière, où il s'agissait en somme de poser la politique de l'amour à la fois comme ordre et comme désordre, comme hiérarchie céleste et comme force d'effraction. Cette métaphysique de l'amour, vous vous en souvenez, construit patiemment l'ordo amoris de la cathédrale dantesque en étageant nos attachements de l'amour de soi à l'amour de Dieu, mais ce faisant, elle s'ouvre à une pulsion de désir que l'on peut dire indifféremment mortifère ou joyeuse, peu importe, mais qui dans tous les cas viendra tout fracasser. En tout cas, vous l'avez compris, et c'est pour cela aussi que j'ai voulu commencer par le Collier de la Colombe, je ne cherche nullement cette année à faire de l'invention de l'amour au XIIe siècle le roman de fondation de l'Occident. Et voilà pourquoi il conviendra, mais pas tout de suite, de faire un sort à ces deux puissantes constructions idéologiques et identitaires que sont l'élaboration des catégories de l'amour courtois par Gaston Paris en 1883, ici même, et de l'amour-passion par Denis de Rougemont en 1939. Dans les deux cas, la littérature médiévale servait la cause d'une clôture des sociétés sur elles-mêmes, dans un cadre national pour Gaston Paris, européen pour Denis de Rougemont. Il convient là encore de décloisonner, de globaliser notre approche. Et si je parlerai désormais de la chrétienté latine, ce n'est certes pas pour prétendre en faire un instrument de définition civilisationnelle, mais en vertu de ce que Jacques Derrida a appelé dans un texte important publié en 2000 sous le titre « Foi et savoir », la mondialatinisation. Par ce terme de mondialatinisation, le philosophe désignait la manière dont les préceptes de la chrétienté romaine en viennent à s'imposer mondialement dans le langage, dans les pratiques, du droit, de la politique, de l'économie, de la science, et ce, sans le recours de l'Église, et même parfois dans la certitude qu'il nous faut souffrir la mort de Dieu. C'est ainsi, on y reviendra peut-être à la toute fin, que le précepte biblique de la loi d'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même, a pu se mondialatiniser. Repartons donc de ces mots de l'amour, et avant d'y entendre gronder la sédition dans leur équivocité, commençons par comprendre comment ils s'organisent dans le lexique. En latin médiéval, l'amour se dit à l'aide de trois mots, amor, caritas et dilectio. Le premier, amor, est un mot ancien, d'un usage universel, il s'applique à tous les êtres. On peut dire que les végétaux aiment la pluie comme ils aiment la terre, et ce, de manière, je dirais, naturelle et familière. Il peut rendre ce que nous appelons l'amour comme il peut rendre ce que nous appelons l'amitié. Dans leur dictionnaire étymologique de la langue latine, les deux Alfred, Ernoux et Meillet, le font dériver de la racine « ama », d'où procède « maman », soit le besoin de téter. « Caritas », à l'inverse, est un mot plus neuf, qui dans son usage chrétien provient de la traduction par Jérôme de l'agapé grec. Agapé, par opposition, évidemment, on y reviendra, à la pulsion désirante de l'éros. Donc, quand il y a agapé, généralement, on traduit par caritas, et ça renvoie directement à Dieu. Et c'est fait pour se séparer de l'éros dans le grec biblique. Mais contrairement au binôme amor-amare, le substantif caritas, lui, n'a pas de verbe. Donc pour dire le fait d'éprouver la caritas, on utilise alors un autre néologisme, diligere, et diligere donne le substantif dilectio, qui est donc le quasi-synonyme de caritas. Pour ça, je parle comme un dictionnaire, hein. C'est ce vocabulaire et avec lui ce fait de langue, avec cette première dissymétrie d'ailleurs, qui envahit les textes latins à partir du XIIe siècle, et du XIIe siècle seulement. À titre indicatif, si l'on mesure les fréquences lexicales de ces termes dans les grands corpus numérisés, on trouve 55 000 occurrences d'amor, 37 000 de caritas dans la patrologie latine, amicitia étant loin derrière, 5300 occurrences, alors que amicitia domine largement le latin classique, qu'on peut interroger sur d'autres corpus. On pourrait donc dire que, tendanciellement, caritas désigne l'amour spirituel et amor, l'amour charnel, que le christianisme vise à séparer. Mais dire les choses ainsi est très insuffisant, car le Moyen-Âge latin hérite de la synthèse augustinienne entre amor, dilectio et caritas. Synthèse funeste, déplore le théologien luthérien Anders Nygren, on y reviendra tout à l'heure, puisqu'elle revient effectivement à érotiser l'amour chrétien. Mais c'est ça qu'Augustin lègue à la pensée chrétienne. Pour Augustin, il n'y a qu'un amour qui circule entre l'amour, entre Dieu et les hommes, et cette force désirante fabrique le monde. Fabrique le monde. C'est pas seulement que les mots font l'amour, c'est que les mots de l'amour font la société. Et précisément, toute l'énergie politique de l'histoire que je cherche à vous raconter ici vient de là. Pourquoi est-elle politique, cette énergie de l'équivocité, que à mort puisse dire tout à la fois? Parce qu'Augustin écrit le De Civitate Dei après le sac de Rome par Alaric, le 24 août 410. Capitur urbs, quae totum capit orbem, la ville qui avait conquise le monde est conquise. Il écrit donc après le désastre, post res perditas. Et au fond, Ibn Hazm est dans la même situation, après la chute de l'empire omeyyade, et adoptera la même échappatoire qu'on pourrait appeler métapolitique. Comment fonder la communauté? C'est-à-dire comment la refonder après le désastre? Par l'accord et par le droit? Par le partage du profit, comme le voulait Cicéron? Mais cette solution juridique est caduque. L'empire est tombé. Alors, comme l'a montré Emanuele Coccia, Augustin propose une institution émotionnelle de la cité. L'amour, ce mouvement qui relie celui qui aime à celui qui est aimé, est la seule force qui permet d'unir les âmes. De Civitate Dei 1, 19, 24. Un peuple est un groupe d'individus rationnels qui sont associés par la jouissance commune de ce qu'ils aiment. À tel point que, pour comprendre la qualité d'un peuple, quel qu'il soit, il faut se pencher sur ce qu'il aime. Alors, Augustin ne dit pas seulement « all you need is love ». Ce n'est pas qu'une force politique, c'est une obligation juridique. D'où l'importance d'ailleurs de la loi d'amour exprimée dans le verset du Lévitique « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Par conséquent, tout commandement a pour objet l'amour, matière originaire de toute forme de justice. L'amour est la finalité propre à toute norme, écrit Augustin. Et voilà donc l'un des fondements les plus anciens, les plus profonds, les plus durables de l'art de gouverner des modernes, et ce jusqu'à Montesquieu, ce qu'il appelait les passions du cœur. Donc, du point de vue de l'organisation sémantique des mots de l'amour, la synthèse que je propose d'appeler métapolitique augustinienne produit des réactions en chaîne. Si l'amour est une force unique, alors il doit être qualifié. Augustin est le premier auteur, par exemple, à faire usage systématique du syntagme « amor dei », l'amour de Dieu, dans les deux sens, qu'il nous porte, qu'on lui porte. Et si l'amour humain est traversé par cette ambivalence fondamentale entre caritas et cupiditas, alors on doit le caractériser aussi par un jeu d'opposition qui distingue le bon amour, le pur amour, le vrai amour, le véritable amour, l'amour droit, selon des couples d'opposition, bonus, malus, rectus, perversus, castus, bravus, etc. Cette distribution sémantique, elle est proprement séminale, parce que comme l'a montré Peter Brown et bien d'autres après lui, la pensée augustinienne s'impose durablement, je dirais presque définitivement, à la société médiévale, pas seulement comme doctrine, je ne parle pas de l'augustinisme politique ici, mais comme structure anthropologique. Or, cette structure, j'y reviens, se fonde dans la langue. Pour l'appréhender, il ne s'agit plus alors de saisir le tremblé d'une notion sous la plume d'un auteur singulier, mais bien d'en saisir la distribution générale, en pesée globale, comme on disait autrefois dans la vieille histoire sérielle, sauf qu'ici, c'est avec les moyens informatiques modernes qu'offre l'interrogation automatisée des grands corpus numérisés. Donc en mesurant le texte, cette méthode lexicométrique qui fait saisir des faits de langue d'autant plus massifs qu'ils sont inaperçus, approche ici non pas une histoire des idées, mais celle souterraine des idées d'une société, afin de reprendre une distinction posée par Jean-Philippe Genet. Et l'historienne qui a mené ce travail le plus systématiquement, et qui en a depuis une vingtaine d'années tiré les conséquences les plus générales, et parfois les plus impérieuses, pour la compréhension même de la société médiévale, c'est Anita Guéraud-Jalabert, spécialiste des rapports de parenté et des motifs de la littérature courtoise. Sa méthode d'analyse sémantique, sur laquelle je m'appuie désormais, et de traitement lexicographique, consiste à mesurer des fréquences et à dessiner des noyaux de co-occurrence autour des termes que le calcul factoriel permet d'étoiler en constellation. Ainsi, autour du couple Amor-Amicitia, dans les actes de la pratique médiévale, tous les mots qui évoquent l'unité, le lien, l'accord, concordia, unanimitas, consensus, consensio, pax, feu douce, mais aussi, dans une bonne partie de leur emploi, benevolentia, pietas, affectus, affectu, affectio, etc. Et c'est ainsi que Anita Guéraud-Jalabert a pu mettre en évidence ce qu'elle a appelé une matrice analogique autour de l'opposition entre caro et spiritus, entre le charnel et le spirituel. Opposition qui décide de la conformité ou non du lien d'amour au modèle divin. Cette matrice est dite analogique, car la distinction spirituelle-charnelle conforme évidemment l'anthropologie chrétienne du corps humain avant de configurer celle du corps social. Cette métaphore organiciste, que j'avais proposé d'appeler métaphore eucharistique dans le cours sur les fictions politiques, en lui donnant d'ailleurs une dimension un peu plus théologico-politique, c'est une métaphore rectrice, au sens où elle fonde non seulement des théories, mais des pratiques de la représentation, entendue comme figuration et comme délégation. J'y reviens pas en détail, je me contente de rappeler quelques grands traits. Dieu a créé l'homme comme chair et comme esprit. La chair se reproduit par génération, mais transmet avec elle la marque du péché originel. L'esprit est quant à lui d'origine divine, et Dieu l'introduit dans chaque homme après la conception de la chair. L'homme, l'être humain, est donc un composé de caro et de spiritus, composé parfait, puisqu'il est fait de deux éléments parfaitement distincts et parfaitement unis par l'amour, caritas. Car c'est ici, évidemment, un rapport hiérarchique harmonieux. Par conséquent, c'est le rapport de l'homme à Dieu qui lie en l'homme sa part spirituelle et charnelle. L'une, spiritus, désigne le souffle vital, quand l'autre, caro, ne signifie plus, comme dans le latin classique, la chair par opposition aux os et à la peau, mais le corps tout entier. Et dès lors, le binôme spiritus-caro est une innovation lexicale par rapport à l'opposition âme-corps, anima-corpus, et elle permet de distribuer de manière dynamique toute une série de polarisations qui, selon l'historienne, organisent non seulement un système de représentation, mais un agencement social. Ainsi, à la bipolarité spiritus-caro se superposent les couples homme-animal, ou homme-femme, ou clair-laïque, ou vierge-mariée, ou maigre-gras, mais aussi céleste-terrestre, intérieur-extérieur, en un vaste réseau de correspondances analogiques qui forment le système. On notera au passage que le carré anthropologique des différentes ontologies susceptibles de composer le monde, telles que Philippe Descola l'a théorisé, n'est venu que tardivement et peut-être un peu superficiellement à l'appui de cette élaboration abstraite qui repose moins, on l'a compris, sur des pratiques sociales que sur des réseaux sémantiques. Alors, il n'est nullement question ici pour moi de contester la productivité historiographique d'un tel schéma de pensée. Anita Guéraud-Jalabert l'a elle-même appliquée à l'un de ses terrains de recherche, la littérature courtoise des XIIe au XVe siècle, en l'interprétant globalement comme une réaction aristocratique à la mainmise idéologique de l'institution ecclésiale, réaction aristocratique qui passe précisément par la spiritualisation de l'amour, mais par d'autres moyens, et qui permet donc de revaloriser la place de l'Église, la place de la chevalerie face à l'Église. Ainsi, le roman de chevalerie et la poésie du fin amor vont-ils, on y reviendra évidemment, proposer des déplacements laïques dans la matrice analogique, jouant de l'opposition entre le château et la forêt, la cour du roi Arthur et le monde, l'amour fin et le mariage, mais aussi par exemple les fées et les mauvais enchanteurs. Le développement du merveilleux féerique dans le roman arthurien s'explique ainsi par, je la cite, la volonté de spiritualiser la chair, non au travers de la continence et de la virginité, comme le veulent les clercs, mais au travers d'une sexualité réglée et donnée comme expression de la caritas. Le rapport des fées à l'espace peut d'ailleurs se lire en fonction de cette structuration globale d'un espace polarisé par des liens, des lieux, affectés d'une intensité différentielle, et non comme un territoire lisse et homogène, ainsi que l'a montré Alain Guéroux. La bipolarisation spiritus caro s'exprime dans cette opposition entre l'intérieur, toujours doté d'une valence positive, et l'extérieur, dévalorisé. Ce qui explique, par exemple, que la chasse aristocratique, pratique de marquage symbolique de l'espace et de sublimation de l'énergie érotique, si elle constitue évidemment en elle-même une métaphore de la conquête amoureuse, elle joue de cette bipolarité entre par exemple la chasse à l'oiseau qui se pratique dans un espace pensé comme intérieur et par conséquent affecté d'une valeur spirituelle, donc le faucon, face à la chasse au chien qui appartient à l'espace extérieur et comporte donc une valeur sexuelle. Évidemment, il ne s'agit pas seulement ici de faucons et de fées, de gentilles dames et de beaux chevaliers. Ce qui est en jeu, c'est la structure même de la société féodale, caractérisée à la fois par la spatialisation des rapports sociaux et l'enracinement des lignages, ce qu'Anita Guéraud-Jalabert appelle précisément des topolignées, c'est-à-dire des chaînes de succession et de transmission aristocratique des biens, dans lesquels les femmes n'ont évidemment pas du tout le même rôle que celles qu'on prétend leur concéder dans la littérature courtoise. Or, justement, le dominium s'inscrit depuis la fin du XIe siècle et la réforme de l'Église, que l'on dit grégorienne, dans le cadre anthropologique global de l'Ecclésia. Celle-ci se définit par l'institution du baptême, qui règle l'entrée dans la vie chrétienne, et crée ainsi une parenté en Dieu, fondée précisément sur l'opposition entre spiritus et caro. C'est pas seulement que depuis l'époque carolingienne, on baptise les enfants, c'est qu'on suscite par là une parenté baptismale, les parrains et marraines, qui englobe tous les chrétiens dans un réseau de parenté spirituelle qui peut culminer dans une fraternité générale qui est celle de la chrétienté, et qui inclut évidemment les prêtres, pères en Dieu, d'où la seconde conséquence sociale que Joseph Morcel appelle la déparentalisation et sur laquelle il a échafaudé une bonne part de sa conception de la société médiévale dans laquelle les structures de la parenté ne sont plus, je le cite, primo-structurantes mais exo-structurées. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'elles sont structurées de l'extérieur, depuis l'Église, depuis la législation ecclésiale sur le mariage qui elle-même est fondée sur la coupure grégorienne entre l'ordre des gens mariés et l'ordre des gens continents, c'est-à-dire les clercs, qui se pensent intégrés, eux, dans une familia spirituelle qui se définit par des liens fondés sur la caritas, l'amour pur ou charité, liens qui sont évidemment grandement valorisés par rapport à ceux qui sont désormais fondés sur le sang ou l'alliance, consanguinitas ou affinitas. Ainsi, la caritas est pensée comme le paradigme du lien entre les hommes et Dieu et entre les hommes entre eux, comme le lien spirituel qui garantit la cohésion de la société chrétienne référée au divin. C'est d'autant plus important que la caritas s'oppose également à la cupiditas, caractérisant la mauvaise gestion des biens de l'Église ou les appétits laïcs qu'il suscite, si bien que dans son sens actuel d'aumône, charité, de don charitable, il règle aussi la circulation des richesses en l'intégrant dans une économie du salut, c'est-à-dire qu'il réalise l'union harmonieuse entre le salut individuel et le bien de la communauté. Donc comme on le voit, cette opposition, tirant les fils, entre caro et spiritus, est une poutre maîtresse d'une partie importante de l'historiographie médiévale. Alors, vous me connaissez. Je ne conteste évidemment pas, et j'aurais pas l'imprudence, de scier cette branche sur laquelle, d'ailleurs, nous ne sommes plus assis. Puisque elle désigne, vous l'avez compris, ce en quoi nous ne sommes plus médiévaux. Et peut-être modernes, si tant est qu'on ne l'ait jamais été. Les médiévistes adeptes d'une théorie unifiée du dominium s'en autorisent d'ailleurs pour prôner une pratique de l'estrangement radicale. Et médiéviste, celui qui rejette le Moyen-Âge au-delà de la séparation de la modernité. Et même si cette historiographie repousse cette coupure moderne quelque part au XVIIIe siècle, il l'imagine idéalement radicale, unanimement occidentale et indemne de toute ambivalence. Cette insistance sur l'altérité du Moyen-Âge a une dimension stratégique et critique, comme le reconnaît Jérôme Bachet dans un article intitulé « Entre le Moyen-Âge et nous », stratégique puisqu'elle permet de conforter une posture scientifique critique, et critique justement parce qu'elle est préservée des pièges d'une fausse familiarité, ce que je ne conteste pas, même si je pense qu'entre le Moyen-Âge et nous, il y a aussi une familière étrangeté qui peut inspirer, on y reviendra, et en plusieurs sens, des politiques de l'amitié. Pour Anita Guéraud-Jalabert, et pour tous ceux qui s'autorisent la systématicité de sa pensée, cette clé de lecture ouvre quelque chose comme une universalité, en tout cas le paradis des explications globales de la société médiévale, en tant que celle-ci serait coextensive à la chrétienté. Puisqu'il y a une partie du public qui est commun avec le cours que donne Antoine Lilti sur l'universel. Là, je parle de l'universel au sens de la serrurerie. Hein, une clé universelle, c'est un passe-partout. Et de fait, dans sa contribution au colloque organisé par Jean-Philippe Genet sur la légitimité implicite, et de fait, cette bipolarité entre spiritus et caro et le type même de cette structure d'autant plus portante qu'elle demeure imperçue, Anita Guéraud-Jalabert en donne cette formulation un peu raide, l'analogie généralisée produit un dispositif idéal, compact et fortement intégrateur qui fonde un ordre total. Généralisé, idéal, compact, total. Je comprends évidemment que ce vocabulaire et sa fonction consolatrice pour une profession d'historien médiéviste qui a dû faire le deuil des grands paradigmes du féodalisme puisse être attirant. Personnellement, je ne la partage pas. D'abord par souci de réalisme. C'est que s'il y a des médiévistes, c'est pour comprendre pourquoi, malgré l'ambition proprement totalitaire de la papauté, l'Église occidentale n'a pas accouché d'une théocratie, comme le rappelle Dominique Yungapra dans son grand livre sur la Maison Dieu en 2006. Ce qu'il y a au Moyen-Âge, et donc ce qu'il y a à penser, c'est la diversité des pouvoirs, leur dissémination du fait de l'échec de l'ambition totalitaire de la réforme grégorienne. Et je précise d'emblée que cette position de recherche, ou ce style de recherche, n'a strictement rien à voir avec le mauvais procès que l'on fait actuellement à l'ambition historiographique de Florian Mazel, qui consiste à reséquencer l'histoire du Moyen-Âge occidental autour de la réforme grégorienne. Ce dont je parle prend la suite, en tire les conséquences, y compris du point de vue chronologique. D'où l'importance, j'y reviens, de cette notion d'expérience politique. Je me permets de vous renvoyer sur ce point au dernier cours de la seconde saison en 2019 de l'enquête sur les expériences politiques, où j'avais testé cette hypothèse un peu paradoxale, en tout cas contre-intuitive, que la relative robustesse, puisqu'on cherche de la compacité, la relative robustesse de la domination au Moyen-Âge, sa durabilité, sa scalabilité, c'est-à-dire le fait qu'elle se trouve à plusieurs échelles, réside moins dans la compacité contraignante de l'encadrement des hommes que dans leur capacité à s'en extraire. L'expérience communautaire se dissolvant alors en une aventure individuelle qui serait autant d'échappées belles. C'est précisément parce que la fuite est possible que la contestation se fait moins impérieuse. Et j'articulais cette idée à une seconde, le système des pouvoirs tient globalement parce qu'il rend pensable la possibilité d'un autre devenir politique, qu'il maintient à distance, mais toujours à vue, dans les lointains, dans les fictions, ou en contraire, dans toutes ces formes d'hétérotopie, des communautés qui forment des ailleurs, ici même. Alors, revenons à nos amours, pour y retrouver la fitna. Si l'historiographie qui se réclame de l'efficacité classificatoire de la matrice analogique que forme l'opposition structurelle entre le charnel et le spirituel nous paraît péchée, si je puis dire, par idéalisme, c'est aussi parce qu'elle est étonnamment prude. Or, j'y reviens, les mots font l'amour. Ils ordonnent le monde, peut-être, mais dans leur équivocité, ils y jettent le trouble, ou plutôt ils le trahissent, au double sens de trahir, c'est-à-dire d'être infidèle et de révéler à soi-même. Trouble dans la charité ferait un bon titre pour la séance d'aujourd'hui, à moins que vous ne préféreriez fitna dans la caritas, ça me va aussi, mais dans tous les cas, il est illusoire de croire qu'il suffit de dire les mots en latin pour les éloigner de nous, car ils nous viennent, quoi qu'il arrive, d'une histoire toujours plus ancienne. Marc Bloch l'avait déjà fort bien dit dans son Apologie pour l'histoire. Si la chimie a le grand avantage de s'adresser à des réalités incapables par nature de se nommer elles-mêmes, ce n'est pas le cas de l'histoire. Son vocabulaire, je cite Marc Bloch, l'histoire le reçoit pour la plus grande part de la matière même de son étude. Elle l'accepte, déjà fatiguée et déformée par un long emploi, ambigu d'ailleurs, souvent dès l'origine. Donc, partir des mots, comme je tente de le faire ici, ce n'est pas nécessairement en figer le sens pour construire une architecture compacte. C'est peut-être aussi, peut-être surtout, se mettre à l'écoute de ce qui vibre en eux, ce qui gronde, ce qui trouble. Caritas. J'y reviens. Et le mot latin, par lequel on l'a vu, la Vulgate rend globalement l'agapé grec, qui lui-même est un néologisme du grec biblique, pour s'écarter d'éros, globalement. Hein, parce que dans la Bible, le substantif agapé est traduit 90 fois par caritas et 24 fois par dilectio. Mais caritas a déjà un sens dans le latin classique. Alors, Cicéron le définit très sagement dans son Partitione Horatio. Quand nous parlons des dieux ou des parents, de la patrie, des hommes éminents, nous employons de préférence le mot caritas. S'il s'agit des époux, des enfants, des frères et de nos familiers, c'est amor qui convient le mieux. Bien sûr, c'est plus convenable. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi caritas par hasard. Mais on comprend donc que l'emploi de caritas introduit une nuance, une préférence, on préférera, dit Cicéron, hiérarchisante, pour dire un amour plus élevé. Mais est-il pour autant plus spirituel ou moins charnel? Sa racine étymologique, car ou care, renvoie explicitement au désir physique. Désolé, le ver est dans le fruit. Et on peut même la rapprocher, si on veut s'embarrasser un peu davantage, de la racine kama, qui en sanskrit se trouve dans Kama Sutra, la littéralement, les aphorismes du désir. Pour les auteurs latins, d'ailleurs, est cher ce qui est à la fois coûteux et chéri. C'est la valeur de quelque chose qui détermine notre attachement, même si ce qui prépare sa conversion chrétienne, c'est son sens affectueux, je dirais caressant. La caritas, oui, est aussi une caresse. Les auteurs médiévaux en ont d'ailleurs bien conscience, parce qu'ils tentent par l'étymologie d'éteindre cet incendie, ce feu qui couvre, ce feu érotique, à la racine du mot, pour séparer l'amour de charité de l'amour de convoitise. On va ainsi affirmer à partir du XIIIe siècle que la caritas ne procède pas de carus, carus, la cherté en latin, mais de caris, la grâce en grec. Sauf que là encore, caris, on pourrait en parler longtemps et on en parlera, ce mot ne démine en rien la charge érotique de l'amour, parce qu'il y a dans la caris satisfaction d'exister pleinement, un charme et même un principe de plaisir dont on ne peut le séparer. Donc, alors, c'est vrai que de ce point de vue, dilectio est plus sage, diligere, legere peuvent aussi dire ramasser, cueillir légumènes, des légumes, ou lignum, du bois de chauffage, mais aussi eligere, choisir. Et donc, la dilectio désigne donc un amour d'élection. Et à l'inverse, d'autres mots qui disent le rapport amoureux de manière plus crue ou plus énergique, comme libido, qui désigne clairement une pulsion qui peut être sexuelle, ont aussi des usages moins fougueux. Libet, c'est un verbe défectif bien plus mesuré, et si je dis silibet, je dis s'il te plaît. Ce qui est toujours bien aussi avec la libido d'ailleurs. Je m'appuie ici sur une communication récente à un colloque de l'Institut catholique de Paris, où le 8 décembre 2023, Dominique Poirel a évoqué ces variations étymologiques dans une très belle communication intitulée « Les noms de l'amour dans le Moyen-Âge latin », et il y montrait combien le Moyen-Âge avait au fond connu, je le cite, « deux pensées de l'amour, l'une fondée dans le langage, l'autre dans la Bible ». Alors, bien entendu, on attendrait du langage qui l'ordonne les différents degrés de l'amour exprimés dans la Bible. Mais il est en lui-même, c'est ce que je tente de dire, porteur d'une ambivalence. Et chacun de ces mots, certes, dans des proportions et des intensités différentes, tremble de cette indétermination entre la violence du désir et la ferveur de la vénération, entre la convoitise et la révérence, entre l'amour comme possession et l'amour comme dépossession. Et voilà pourquoi la caritas ne peut régner sur ce fracas innocemment, comme une reine vierge, parce qu'elle ne l'est pas, et parce qu'elle n'est pas sage, et parce qu'elle peut être violente. Richard de Saint-Victor, un élève écossais d'Hugues de Saint-Victor, qui meurt, Richard, en 1173, alors qu'il est prieur de l'abbaye de Saint-Victor de Paris, l'a exprimé de manière incroyable, superbe, stupéfiante, dans un texte intitulé « Les quatre degrés de la violente charité ». De la violente charité. Ces quatre degrés sont l'amour qui blesse, l'amour qui lie, l'amour qui fait languir, l'amour qui fait défaillir. Et cette phénoménologie du mal d'amour, dans laquelle on retrouve beaucoup des thèmes évoqués la semaine dernière, concerne aussi l'amour de Dieu, défini comme « caritas », nous y reviendrons en détail la semaine prochaine. Aimer dit tout cela à la fois. Et ce d'autant plus qu'au-delà de leur tiraillement, Augustin en a rassemblé les sens autour d'un seul mot, un mot commun, dont la force toute politique réside dans l'indétermination, puisqu'il dit une activité humaine qui n'est pas déterminée par sa nature, mais par la valeur de son objet, amor. En ce sens, la première des langues modernes est le latin, comme l'écrit Barbara Cassin dans l'article « Aimer, amour, amitié » de son vocabulaire européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles, puisque toutes les langues romanes et germaniques de l'Europe relaient jusqu'à nous cette indécision sémantique, couvrant toute la gamme avec « aimer » des affections et des relations. L'usage moderne de ces langues tente d'en réduire l'écart par un synonyme d'opposition, Mögenlieben en allemand, to like, to love en anglais, dans une phrase du type do you like Middle Ages? I love it. Bon, ok, très bien. Mais ce n'est que l'expression, en fait, parce que demeure toujours dans les mots de l'amour, vivace, vibrante, cette irréductible bipolarité entre le spirituel et le charnel, et toute tentative de le réduire bute sur cet infracassable noyau de nuit qu'est le désir. Alors, vient, évidemment chez les auteurs, la valse des épithètes, dont l'article du dictionnaire des intraduisibles propose un fascinant catalogue. On opposera, par exemple, dans le français courant du Moyen-Âge, bon amour et fol amour, puisque l'amour spirituel et l'amour charnel ne se peuvent séparer par nature, on les distinguera par objet, en fonction de l'estime qu'on leur porte. C'est ce qu'on appelle l'amour estimatif, au XVIIe siècle, chez Descartes, ou dans la tragédie d'ailleurs, et jusqu'à l'opposition kantienne entre amour pathologique et amour pratique. Il est tout à fait frappant de voir que, d'ailleurs, cette volonté très normative, hein, vous avez compris, hein, c'est-à-dire de mettre une séparation là où, en fait, il n'y en a pas, ne s'affaiblit nullement au XXe siècle et que la psychanalyse s'en empare, Jacques Lacan imposant une dichotomie tranchée entre le désir et l'amour qui, pour lui, échappe à l'équivocité par le simple fait qu'il n'est rien d'autre, l'amour, qu'un sentiment désérotisé. Alors, je ne dis pas que nos médiévistes idéalistes et un peu puritains, faisant une idée compacte et univoque de la caritas, sont des lacaniens qui s'ignorent, mais simplement qu'ils poursuivent, en dissipant ce trouble dans la charité, que je pense structurant dans la définition politique de l'amour, une entreprise intellectuelle de discipline des concepts, qui trouve en fait son origine dans la réforme protestante. Parce que c'est ici le moment d'évoquer ce grand livre qui a eu un fort impact sur l'historiographie médiévale, au point peut-être de faire écran entre le Moyen-Âge et nous, Eros et Agapé, la notion chrétienne de l'amour et ses transformations, du théologien luthérien suédois Anders Nygren, paru à Stockholm entre 1930 et 1936, et traduit en français, en trois volumes, entre 1944 et 1952. Dans ce livre, Nygren prend appui sur le fameux aphorisme de Nietzsche dans « Par-delà le bien et le mal », le christianisme a empoisonné Eros, il n'est pas mort, mais il est devenu vicieux, et il le retourne. Ce qui est vicieux, pour Nygren, c'est la funeste synthèse d'Augustin qui confond dans un même mot latin, « amor », ce que la langue grecque distinguait « eros » et « agapé », le premier étant aussi égoïste que le second, « agapé » et « désintéressé ». Si l'on lit dans la première épître de Jean, « Deus caritas est »,« Dieu est amour », cet amour ne peut être que l'agapé, « affection désintéressée ». Ce don de soi à Dieu comme véritable objet, et jamais il ne manque à ceux qu'il aime, alors que le désir érotique est concupiscence des choses absentes, écrivait Augustin. Et c'est vrai, parce que, là encore, le secret replié niche au creux du langage même. Desiderare, désirer, vient de la langue des augures, et ça signifie cesser de voir l'astre d'une personne. C'est le contraire de considérer. Donc le désir est toujours déjà le regret d'un manque. Porter le désir de quelqu'un, c'est endurer le chagrin de sa mort, par avance. Et voilà pourquoi il est vital de nous délivrer de cette confusion augustinienne de l'amour, dit Nygren, parce que, au fond, et c'est en cela qu'il est luthérien, c'est Luther qui s'attachera à purifier la théologie de cette funeste synthèse. Ainsi trouve-t-on par exemple chez un autre théologien influent du protestantisme, Karl Barth, la même séparation radicale des deux amours, l'agapé qui est le oui de Dieu à l'homme et Eros qui est le oui de l'homme à lui-même. Halte là, demi-tour et en avant, dit l'évangile à l'amour concupiscent, Cette volte-face explique pourquoi d'ailleurs on parle de charité bien ordonnée. Elle commence par soi-même, certes, mais ne s'en contente pas. Elle se détourne de l'égoïsme, de l'usage des plaisirs. Elle vise l'amour de Dieu. Alors, encore une fois, je ne doute pas que l'on puisse faire avec de telles distinctions une belle morale. Je doute qu'on puisse en faire de la bonne histoire. D'ailleurs, si vous saisissez Eros et Agapé sur un moteur de recherche, il vous dirigera en premier lieu vers une marque de vêtements éthique, bio, vegan et responsable, et ce qui ne gâche rien de fabrication française. Et le deuxième choix, c'est un site qui vous aide à bien distinguer ces deux formes d'amour dans votre vie personnelle, et ce site s'appelle Coaching Biblique. Voilà assurément de quoi calmer votre trouble. Pourtant, celui-ci demeure. Et ce ne sont pas les mots de l'amour qui peuvent le dissiper ou le discipliner, puisqu'ils sont eux-mêmes pris dans cette indétermination. Et ne pensez pas que je m'amuse ici à profaner la caritas en accueillant le loup dans la bergerie ou la folle du logis dans le temple de la raison. Savez-vous que le pape Benoît XVI ne pensait pas autrement? Je ne dis pas ça pour m'en autoriser, mais au contraire pour m'en inquiéter. Benoît XVI a voulu resserrer l'Église chrétienne autour des trois vertus théologales, foi, espérance, charité. Et bon, c'est pourquoi cette très impressionnant théologien, très subtil, étonnamment médiéviste, n'a publié dans son pontificat que trois encycliques, en 2005, 2007 et 2009. Pontificat qui s'achève par sa renonciation le 28 février 2018, chef-d'œuvre théologico-politique qui ferait une fin crédible au très long Moyen-Âge. Bon. La première encyclique de ce théologien puissant s'appelle justement « Deus Caritas Est ». Et elle définit la foi par l'unité de l'amour dans la création et dans l'histoire du salut. Et elle réfute une opposition stricte entre Eros, Agapé et Philia. Et elle dit « Le rapport érotique entre l'homme et la femme est, non pas le symbole, mais la figure du rapport entre Dieu et le peuple qui sauve. » Encore une fois, je ne dis pas, je dis cela uniquement pour ajouter au trouble. Ne croyons pas que l'acceptation de la part érotique dans l'amour charitable soit synonyme d'émancipation. Tout dépend évidemment des pratiques qu'autorise une telle théorie. Il y a tout lieu de s'inquiéter lorsque l'Église la plus rétrograde prône la libération sexuelle. Je parlais la semaine dernière des prolégomènes à la charité de Jean-Luc Marion, philosophe catholique caractérisant ce que Dominique Janicot a appelé le tournant théologique de la phénoménologie française. Il y exprime superbement cette logique propre de l'amour qui est de subversion. Cette logique qui fait, au fond, qu'il y a une défaillance, je le cite, de la raison elle-même à rendre raison de l'initiative d'aimer. Et ça, il l'écrit dans le livre qui fait suite à Prolégomène à la charité, dont je vous parlais la semaine dernière, qui s'appelle Le phénomène érotique, 2003. Et dans Le phénomène érotique, pour Jean-Luc Marion, point de doute, Dieu aime au même sens que nous. C'est le même amour. Il n'y a pas d'amour sans érotisation de la chair. Et en ce sens, d'ailleurs, l'amitié est un amour inachevé. Dieu aime comme nous, mais il aime comme personne, parce qu'il aime parfaitement, parce qu'il aime infiniment. La dernière phrase du livre, c'est « Dieu nous surpasse au titre de meilleur amant ». Alors ça nous engage évidemment à poursuivre le geste d'Anders Nygren, en ne se contentant pas d'aller chercher le grec sous le latin pour tenter d'y mettre bon ordre, mais de remonter jusqu'à l'hébreu pour y retrouver le désordre initial, le tohu-bohu, celui du cantique des cantiques, et ce sera la semaine prochaine. Mais je voudrais aujourd'hui, pour terminer tout à fait, faire retour à Ibn Hazm et à sa poésie qui fonde, vous l'avez compris, une politique de l'amour sur la défaillance du langage à le dire. Pour l'anthropologue algérien Malek Chebel, Ibn Hazm devrait être rapproché d'un moment romantique de la politique de l'amour, c'est-à-dire de Stendhal et de Kierkegaard. Avec Stendhal, il partage cette dramaturgie de l'incertitude des signes, de l'intermittence de l'interprétation, du battement entre la croyance et l'incrédulité. Souvenez-vous de la valse des signes incompris entre Clelia Conti et Fabrice Del Nongo dans La Chartreuse de Parme, roman du secret replié, là aussi, où les regards et les lettres s'échangent, mais où l'on n'est jamais certain que les paroles et les gestes de l'amour ne masquent pas des intérêts, des calculs, une violence. Et pour la charité, c'est la même chose. C'est ce que dit le philosophe danois Søren Kierkegaard. Même s'il prétend lui séparer l'amour de Dieu de cet amour profane et charnel qu'il appelle immédiat, il admet que l'amour n'est rien d'autre que ce qu'il fait par les mots, ce qu'il appelle précisément les œuvres de l'amour, grand livre paru en 1847. Et il y dit quelque chose de simple et de bouleversant. D'abord que l'être aimé a le droit à l'expression de l'amour, mais que aucun signe ne nous permet de savoir si cet acte d'amour est une preuve d'amour ou un exercice du pouvoir. Car les mots, là encore, scellent une indécision irréductible sur ce qu'aimer veut dire. Je cite Kierkegaard, « Le langage humain n'a pas un mot, pas un seul, pas même le plus sacré, dont nous puissions affirmer qu'en le prononçant, un homme prouve absolument la présence en lui de l'amour. » Le langage humain n'a pas un mot, pas un seul, pas même le plus sacré, dont nous puissions affirmer qu'en le prononçant, un homme prouve absolument la présence en lui de l'amour. Je dois à Marc Crépon, dans une belle conférence donnée en 2017 au Collège d'études mondiales, cette référence et cette analyse qui débouche effectivement sur l'interprétation inquiète de cette loi d'amour qu'exprime le verset du Lévitique, sur lequel je termine tout à fait, « Aime ton prochain comme toi-même ». Et qui, par ce phénomène de mondial latinisation dont je parlais précédemment, en vient à justifier le refus global de toute violence, de tout consentement meurtrier. « Aime ton prochain comme toi-même ». Le « tu dois » est problématique. Comment l'amour peut-il être commandé? Et qui le commande? Un devoir d'aimer est un non-sens, tonne Kant dans Doctrine de la vertu. Et que signifie « comme » dans « comme toi-même » autant que, de la même façon que? Non, ça veut dire que l'amour de soi est un précédent, mais est-il indispensable? En fait, répond Kierkegaard, c'est une forteresse dont l'amour du prochain force l'accès. Le « comme toi-même » permet de se délivrer des cercles d'appartenance, famille, citoyenneté, patrie, religion, elle vise droit au but, il pénètre, je cite Kierkegaard, en juge au fond de la retraite où l'homme sème, il ne permet pas à l'égoïsme la moindre échappatoire. L'amour du prochain ne se substitue pas à l'amour de soi, mais le déplace. On apprendra ainsi un amour de soi de juste façon qui ne soit pas un égoïsme. Et là, on arrive à la question du politique. C'est qui le prochain? Y compris celui qui me fait du mal? Et j'aurai à l'aimer comme moi-même? C'est une proximité qui, en droit, s'étend à tous. Une proximité sans prédilection, sans préférence. Ce qui fait une grande différence avec l'amour immédiat. Celui, justement, de, je ne vais pas vous la chanter, ma préférence à moi. Là, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de patrie, il n'y a pas de proximité identitaire, religieuse. Il y a effectivement un proche indéterminé. Et on sait bien que le lieu du politique, c'est l'indétermination. Et c'est donc dans cette équivocité qui est, d'une certaine manière, le rapport à la proximité que niche ce qui pourrait bien s'appeler, j'y reviens, une politique de l'amour. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.